Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous lisons aujourd'hui le prélude des Confessions de saint Augustin. Ce sera une invitation pour chacun des auditeurs à ouvrir le livre Les Confessions et à oser le lire tout entier ou le relire pour se le réapproprier et pour l'approfondir. Augustin commence par se placer devant Dieu et par parler à Dieu. Cela veut dire que les confessions tout entières sont écrites à la manière d'un psaume. Un homme se tient devant Dieu et dialogue en première personne, « je », avec une deuxième personne, « toi », qui est ici Dieu. Une des pensées les plus importantes de ce prélude, c'est la pensée de l'inquiétude. Mais il faut la mettre dans son contexte. Augustin note que Dieu ne nous crée pas pour un jour plus tard par hasard nous tourner vers lui, mais qu'il nous a créés d'entrée de jeu en nous tournant vers lui. Ce qui fait que l'homme est créé en étant par essence créé en relation avec Dieu, orienté vers Dieu, tourné vers Dieu. Et c'est pourquoi le véritable bonheur, ou plutôt la joie la plus profonde de l'homme, consistera à pleinement vivre auprès de Dieu. Cela est dit par Augustin dans une phrase, une des phrases les plus célèbres que nous connaissions. C'est Augustin qui parle à Dieu toujours en deuxième personne, à Dieu. C'est toi qui le pousse à prendre plaisir à te louer parce que tu nous as fait tourner vers toi et que notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Méditons cette phrase. D'abord, nous voyons que c'est Dieu qui nous pousse, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous excite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui ne vient pas de nous, mais que l'âme humaine découvre en elle un appel originaire, une vocation, et elle se découvre excitée par un autre, excitée, appelée par quelqu'un. Excitée à quoi? Poussée à quoi? Eh bien, à trouver sa joie, à trouver sa joie dans la louange. Comment expliquer qu'un homme trouve sa joie dans la louange? Eh bien, parce que, c'est Augustin qui l'explique, Dieu nous a créés par essence en étant tournés vers lui et en relation avec lui. Tu nous as créés, tournés vers toi. Il en résulte que chaque fois que notre âme ou notre cœur, pour reprendre le terme augustinien, se tourne vers autre chose que Dieu en oubliant complètement Dieu, cette âme, notre cœur, est malheureux, malheureuse. Notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Nous avons ici à méditer un mouvement. Tout commence par un acte de création de Dieu. Dieu crée l'homme en l'orientant vers lui, Dieu. Premier mouvement, donc l'homme est en direction de Dieu, tourné vers Dieu. Mais la finalité de l'homme, c'est d'être finalement en Dieu, de reposer en Dieu. Et tant que notre cœur ne repose pas en Dieu, notre cœur est précisément sans repos. C'est là le grand thème de l'inquiétude, qui aura une immense postérité dans toute la philosophie occidentale. Augustin donc découvre ici et médite l'inquiétude. Nous pouvons ici faire référence à la doctrine stoïcienne, c'est un mot bien connu, c'est le mot qui se dit en grec « ataraxia ». Vous avez tous vu la mer, et parfois la mer est une mer calme, mer d'huile ou peu agitée, et en grec cela se dit donc, par les deux mots de « taraxia » et « ataraxia ». La mer est tantôt agitée, tantôt calme. Nous passons de la mer à notre âme pour dire que notre âme est tantôt agitée, troublée, remuée, inquiète, et tantôt, au contraire, elle trouve un calme, le repos. Voilà, c'est ce dont il s'agit. Notre cœur est troublé, en mouvement, agité, comme la mer en pleine tempête, jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Dieu. Donc l'âme humaine est inquiète, et cette inquiétude ne cesse que lorsque notre âme habite pleinement en Dieu. L'autre mot important, c'est l'idée de reposer en Dieu. C'est un thème très important aussi. Alors, le repos dans notre civilisation est lié au fait qu'un homme, après avoir travaillé, a besoin de se reposer, faire la sieste, dormir, cesser toute activité. Mais c'est un contresens ici que nous ferions si nous le lisions dans ce que dit Augustin. Le repos dont parle Augustin, c'est le contraire du mouvement, c'est-à-dire c'est le contraire du changement. Être en repos, ce qui a accompli sa nature ou son essence, ce qui n'a plus à changer. Par exemple, un meuble terminé par un artisan, par exemple un tableau ou une sonate terminée par un musicien, etc. Donc chaque fois que quelque chose a atteint sa plénitude, elle est dans cet état qui s'appelle repos. Et donc ça veut dire ici que notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il atteigne sa plénitude, Mais ce que nous découvrons maintenant, c'est que cette plénitude, l'homme ne peut pas se la conférer lui-même, il ne peut pas la trouver en lui-même, il ne peut pas non plus la trouver dans une créature, quelle qu'elle soit, ou dans le monde, où ce soit non plus aussi dans le monde. Notre cœur donc est inquiet, et il ne trouvera sa plénitude que lorsqu'il pourra pleinement habiter en toi, en deuxième personne, c'est-à-dire en Dieu. À partir de là, le thème suivant introduit par Augustin, c'est une demande. Donne-moi. La première fois ici, de nouveau, qu'Augustin s'adresse à Dieu, c'est pour lui demander quelque chose. Cette demande est une demande qui peut paraître étrange. Il demande de connaître ce qui est premier, invoquer Dieu ou louer Dieu. Ce qu'il souligne, c'est le fait que je ne peux pas louer si j'ignore celui que je loue. Il me faut donc connaître afin de louer. La louange, en vérité, ne peut s'adresser qu'à quelqu'un que je connais et que je connais suffisamment bien pour savoir qu'il est, ce qu'il est, qui il est, et pouvoir l'invoquer. Le point suivant porte sur la notion d'invocation. Alors Augustin, comme tous les philosophes, aime les jeux de mots, aime jouer, c'est-à-dire il aime travailler la langue, et il découvre ici que invoquer, en latin c'est invocare, cela veut dire vocare in me en latin, c'est-à-dire appeler en moi. Si j'invoque Dieu, cela veut dire que j'appelle Dieu à venir en moi. Aussitôt surgit une nouvelle question. Qu'est-ce que cela veut dire invoquer Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire appeler Dieu à venir en moi? Et à partir de là, mon regard, qui était d'abord tourné vers Dieu, dans la louange, dans l'amour, dans l'adoration, se tourne vers moi et je me demande en me regardant, mais où peut-il venir habiter? Y a-t-il une place en moi pour qu'il puisse venir demeurer en moi? Immense question qui inaugure les confessions. Nous voyons donc Augustin dans une relation avec son Dieu, comme il l'appelle, mon Dieu, ma douceur, c'est un thème aussi capital, qui signifie qu'Augustin ne parle pas de Dieu à la troisième personne en disant lui, il, Dieu, mais qu'il parle de Dieu en se tenant devant Dieu, lui en première personne, et devant un Dieu qu'il tutoie, à qui il parle en deuxième personne. Ça, c'est vraiment un point capital. Augustin, donc, se tient devant Dieu, tutoie Dieu, lui parle immédiatement, directement, et il se demande ce que cela signifie que d'appeler Dieu à venir demeurer en lui-même. Y a-t-il un lieu où Dieu puisse venir? À partir de là, la méditation d'Augustin consiste en fait à nous avertir et à nous éclairer sur un point capital. Dans notre vie quotidienne, nous sommes habitués, par exemple, à remplir un verre d'eau, à remplir une tasse de thé, et donc nous sommes habitués à un rapport qui est le rapport d'un contenant avec un contenu. Nous versons un parfum dans un vase, par exemple. Et nous sommes habitués donc à la notion de « il y en a trop, pas assez » ou « c'est plein ». Augustin écrit les premières pages des Confessions pour nous tourner vers quelque chose qui ne nous est pas du tout familier. C'est quelque chose qui n'est plus la logique des corps, mais ce qu'on pourrait appeler la logique des esprits ou la logique des âmes spirituelles. Nous sommes accoutumés à manipuler des objets, à savoir, par exemple, combien de litres d'eau peuvent entrer dans ce bidon, ou combien de parfums dans ce vase. Augustin, maintenant, nous invite à regarder autre chose qui n'est plus compréhensible en termes de contenant et de contenu. Ce quelque chose, c'est la relation d'une âme avec une autre âme. Et là, nous n'avons plus affaire à quelque chose qui entre dans une autre, comme l'huile dans la bouteille, comme le parfum dans le vase, mais nous avons affaire à la venue à la présence, et donc à la présence d'une personne auprès d'une autre. Et là, ce qui est assez étonnant finalement, c'est que c'est notre situation la plus quotidienne, puisque l'enfant, dès sa naissance, est en relation avec sa mère, puis avec son père, et donc c'est notre relation la plus quotidienne que d'être une personne en relation avec une autre personne. Mais cette relation de personne à personne nous est le plus souvent cachée, et encore plus aujourd'hui dans la situation technique qui est la nôtre, par la relation que chacun entretient avec des objets, avec des machines, avec des outils. Et vous voyez bien que nous sommes plus accoutumés à manipuler des outils, des instruments. La cuisinière elle-même le sait très bien quand elle remplit les différents ustensiles, ou bouteilles et casseroles. Et nous sommes plus habitués donc à manipuler des instruments qu'à penser la relation interpersonnelle. Or, c'est cela qu'Augustin nous invite à penser maintenant. Alors, nous retiendrons simplement les points principaux de ce prélude et de cette invocation. Augustin souligne d'abord, pour commencer, que quand Dieu se répand en nous, il n'est pas comme un liquide qui remplit un vase. C'est tout à fait différent. Il est celui qui, venant en nous, venant habiter en nous, nous unifie. Donc vous voyez que nous ne sommes pas du tout dans la logique du vase qui contient un liquide, mais nous sommes dans la logique d'une personne qui se rend présente à une autre personne.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Augustin pose maintenant une nouvelle question en demandant qu'est-ce donc que mon Dieu ? Et cette question sera affinée en la question nouvelle, qui est mon Dieu et qui est mon Dieu pour moi ? En vérité, il y aura deux questions. Moi, qui suis-je pour toi ? Et toi, qui es-tu pour moi ? Nous sommes bien ici dans la relation interpersonnelle entre Dieu et une créature spirituelle capable de connaître Dieu et de se tourner et de se retourner vers lui. Nous sommes au livre 1, au chapitre 4. À partir de là, Augustin emploie un vocabulaire paradoxal qui montre la difficulté qu'a l'intelligence humaine de dire quelque chose de vrai et de profond sur Dieu. Je note quelques points en passant. Nous remarquerons le vocabulaire d'Augustin. Augustin dit de Dieu qu'il est à la fois, en latin, secretissime et presentissime, c'est-à-dire en français, à la fois le plus secret et le plus présent. Mais nous voyons bien ici que cela n'est pas possible pour un corps. Un corps est ici ou ailleurs, et quand il est ici, il n'est pas ailleurs. En revanche, une personne peut être à la fois ici et ailleurs. Une personne peut être à la fois la plus secrète et la plus présente. Alors, tenons ensemble ces deux mots qui semblent s'opposer et qui semblent impossibles à tenir ensemble. La notion de secret ici renvoie à l'idée de ce qui croit, de ce qui se tient à l'écart. Et la notion de présent renvoie à l'idée de ce qui vient à la pointe d'eux. Et donc nous voyons ici le paradoxe, c'est que Dieu est à la fois celui qui est le plus secret, le plus retiré, et pour ne pas dire caché, et en même temps le plus présent, puisque c'est lui qui vient auprès de nous, puisque c'est lui qui vient habiter en nous, en répondant à notre demande, puisqu'en fait c'est d'abord son premier désir, pour ainsi dire, qui est de venir habiter chez nous. Dieu est donc à la fois très secret et très présent. Il est toujours en action et toujours en repos. Là encore, nous tenons un discours difficile à tenir pour nous, parce qu'un homme est ou bien en action ou bien en repos, et nous avons vu cette alternance. Nous agissons et nous nous reposons. Mais là, il ne s'agit pas de repos au sens que nous avons vu tout à l'heure. Il s'agit d'être toujours à l'œuvre, et en même temps toujours à l'œuvre dans la plénitude de l'être à l'œuvre, qui exclut toute fatigue, évidemment, ce qui n'est pas du tout la situation de l'homme. Voilà. Augustin insiste aussi aussitôt sur l'amour, en montrant que Dieu est amour, ce qu'il méditera plus tard davantage en écrivant de magnifiques commentaires de la première épître de Saint Jean, dans laquelle Saint Jean découvre que Dieu est amour. C'est-à-dire donc que l'amour est la vie même de Dieu, l'essence même de Dieu. Et voilà qu'Augustin, ici, dans les Confessions, note dès le commencement que Dieu est amour. Mais la façon dont Dieu aime est très différente de la façon dont nous aimons, puisque notre amour est plein de jalousie, plein d'envie. Il est donc corrompu, vicié, embarrassé, contrarié par tout ce qui nous empêche d'aimer pleinement et de recevoir l'amour d'autrui pleinement aussi, puisque nous savons qu'il n'est pas seulement difficile d'aimer, mais il est aussi difficile d'être aimé, de se sentir aimé, de répondre à l'amour d'autrui. Et la question de l'amour sera donc une des grandes questions tout au long des Confessions, bien sûr. Voilà. Nous arrivons au livre 5, en notant, au livre 1, pardon, chapitre 5, en notant au passage une belle expression d'Augustin. Quand il parle à Dieu, il l'appelle ma sainte douceur, ma douceur. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'Augustin a fait l'expérience d'un Dieu proche, d'un Dieu le plus présent et habitant en lui, et en même temps toujours secret, toujours insaisissable. Et donc, nous n'avons pas affaire ici à un philosophe qui tient de beaux discours sur le divin en troisième personne, lui, il, Dieu est, l'être, etc., mais à quelqu'un qui nous témoigne d'une expérience spirituelle de la rencontre du Seigneur, et qui parle en première personne sur le mode de la deuxième personne pour parler à Dieu. À partir de là, donc, Augustin se demande comment il pourra bien donc trouver sa plénitude en Dieu. « Qui me donnera de reposer en toi, dit-il, afin que tu viennes dans mon cœur et que tu l'enivres. » Nous avons ici une pensée tout à fait étonnante, l'ivresse, l'aspiration à une forme d'ivresse. Pour le dire autrement, c'est l'aspiration à la joie la plus parfaite, la plus accomplie. C'est la joie qui vient de Dieu, qui nous est communiquée par Dieu et qui consiste à vivre avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Dès le départ des Confessions, donc l'aspiration d'Augustin est de trouver cette forme d'ivresse en Dieu, cette forme de plénitude de la joie en Dieu. Il continue en disant « Afin que j'oublie mes maux », donc c'est l'oubli du malheur qui frappe l'homme dans sa condition présente, et il continue en disant « Et que j'embrasse mon unique bien, toi ». Vous remarquerez donc ici une certaine audace dans le vocabulaire d'Augustin quand il parle d'ivresse dans l'union avec Dieu et quand il parle d'embrassade, d'embrasser Dieu, en étant bien sûr d'abord embrassé par Dieu. Vous noterez encore, en continuant la lecture, que le malheur véritable consiste à ne pas aimer Dieu. C'est ce qu'il dit ici au chapitre 5. Il n'y a pas de plus grand malheur, finalement, que de ne pas aimer Dieu, c'est-à-dire que d'être ignorant de l'amour de Dieu ou de se tenir en dehors de l'amour de Dieu. Augustin continue sa prière, toujours sous la forme du dialogue « je tue », et je lis un passage important. « Dis-moi, au nom de ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, ce que tu es pour moi. Dis à mon âme, moi, je suis ton salut. » Voilà, c'est ici une des pensées capitales et c'est une prière d'Augustin adressée à Dieu. Quel est l'objet de cette prière? L'objet de cette prière, c'est que Dieu me parle en première personne en me disant, moi, je suis ton salut. Salus tua ego sum en latin. Moi, je suis ton salut. C'est moi qui suis ton salut. En fait, c'est là un verset d'un psaume, c'est le psaume 34, verset 3. Et Augustin donc sait très bien que cela est extrait d'un psaume, puisqu'il le cite, il les connaît par cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il demande à Dieu, « Dis à mon âme, moi, je suis ton salut. » Ce qu'il attend ici, c'est que Dieu lui parle, et que Dieu lui parle en première personne pour se révéler à lui comme celui qui viendra le sauver. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est révélé dans un premier temps comme celui qui a créé, et il se révèle maintenant comme celui qui a à sauver celui qu'il a créé. Cela nous conduit donc à la grande question, une des grandes questions des confessions, qui est la question du mal, la question du péché, la question du malheur de l'homme. Et c'est bien cette question qui apparaît dans le paragraphe suivant, dont il faut dire un mot, et c'est un des plus beaux aussi, c'est le paragraphe 6, livre 1, chapitre 5. Augustin note ici ce qu'il appelle en latin « angusta », qu'il faut traduire d'abord par « l'étroitesse », mais en nous rappelant aussi qu'il est bien question par là de l'angoisse. De quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle de ce qu'il appelle la maison de mon âme. La maison de mon âme est étroite, et étant étroite, elle est angoisse. Il faut rappeler la question de tout à l'heure, c'est l'appel à Dieu afin qu'il vienne loger chez moi, habiter chez moi. Et cela rebondissait en « mais est-ce qu'il y a un lieu pour t'accueillir ? Si je regarde ma maison, elle n'est pas en ordre. » N'importe qui sait très bien que quand il accueille un personnage, et notamment un personnage important, il prépare sa maison, il prépare un repas, etc. Et maintenant, donc, la question de savoir, s'il s'agit d'accueillir Dieu en moi, est-ce qu'il y a un lieu susceptible de l'accueillir ? Et ce que je découvre alors, ce que découvre Augustin, c'est que la maison qui doit accueillir et qui doit loger son hôte divin est étroite, étroitesse, blessée, en partie détruite, en partie altérée, et qu'elle est marquée par l'angoisse. Alors, cela n'a rien de désespérant, au contraire, parce que nous pouvons ici, et Augustin peut, appeler et faire signe à celui qui, le premier, lui a parlé. Et c'est pourquoi il continue par une prière, qu'elle se dilate, qu'elle soit dilatée par toi, en vérité. Elle tombe en ruine, répare-la. Elle a de quoi offenser tes yeux, je l'avoue, je le sais. Nous trouvons ici la première occurrence de la confession comme aveu. J'avoue mes fautes et je sais, je reconnais devant toi, toujours en première et deuxième personne, que j'ai péché, c'est le psaume 50 aussi, le psaume dans lequel David reconnaît sa faute devant Dieu. Alors, ce que cela veut dire chez saint Augustin, c'est la conscience du fait que l'âme humaine a elle-même ruiné ses potentialités. Et elle est devenue angoisse, comme angoisse devant son péché, l'angoisse de découvrir qu'elle a ruiné la merveille qui lui a été confiée, à savoir l'âme, cette âme elle-même, confiée à elle-même. Là encore, donc, il n'y a rien de désespérant, parce que si ma maison tombe en ruine, si ma maison, donc ma manière d'être, est caractérisée par l'angoisse devant mon péché, cela signifie paradoxalement un appel. Celui qui m'a une première fois donné d'être, je l'appelle pour qu'il répare, qu'il restaure, pour qu'il recrée ce que moi j'ai décréé, ce que moi j'ai blessé, ce que moi j'ai défiguré. Nous sommes donc là à la fin du prélude des confessions, et nous voyons bien donc se mettre en place les thèmes principaux des confessions dans leur ensemble. L'invocation à Dieu, l'appel à Dieu pour qu'il vienne habiter en moi, et en même temps l'impossibilité qu'il vienne habiter en moi tel qu'est la maison de mon âme pour l'instant. Et cela donc conduit à un nouvel appel, l'appel adressé à Dieu, qu'il vienne recréer mon âme afin qu'il puisse venir y demeurer. Donc ça veut dire que l'homme est capable de blesser la merveille qui lui est confiée, à savoir lui-même à lui-même, mais il n'est pas capable par lui-même de recréer ce qu'il a pourtant décréé, ce qu'il a pourtant blessé et en partie détruit. Elle tombe en ruine, mais nous sommes dans la capacité encore de nous tourner vers celui qui nous a donné d'être et de lui demander de nous recréer. La nouvelle création, voilà donc un thème essentiel des confessions. Les confessions, donc nous l'avons vu, ne consistent pas ici simplement à faire la liste des péchés, des turpitudes ou des fautes d'un homme, mais d'abord dans la louange, elles consistent dans la louange, louer Dieu, rendre grâce parce que celui à qui Augustin fait appel est venu, il a répondu à l'appel et il est venu réparer la maison, il est venu redresser ce qui était tordu, redresser le bois tordu, pour reprendre une vieille image qui parcourt l'histoire de la philosophie. Si Dieu se tourne vers l'âme humaine, il découvre quelque chose qui offense sa sainteté, mais en même temps, ce que nous expérimentons, c'est que ce Dieu qui nous a créés a un désir ici immense, qui est le désir de venir recréer cette créature et non pas de l'abandonner. C'est un thème constant de toute la tradition juive et chrétienne. Dieu n'abandonne jamais.